Chapitre 3 Dans le brouillard. On avait rarement vu une nuit pareille. Le brouillard submergeait entièrement la ville, la noyait comme sous une pluie de cendres. Il remplissait les grandes artères comme d'une masse compacte et solide, bouchant les rues latérales, recouvrant les squares comme d'une souple étoffe grise. Jusqu'au sol, il semblait abesantir sa substance épaisse, visqueuse, impénétrable d'une opacité telle que le rayon visuel n'atteignait pas un mètre. Les rares passants que l'on rencontrait semblaient des fantômes qui, surgis inopinément devant vous, s'évanouissaient presque aussitôt comme happés par un fluide palpable. Par endroits, ce fluide semblait s'évaporer. Devant la théâtre Jolité, par exemple, de nombreuses lampes à arc réussissaient ensemble à créer un espace empli de clarté jaunâtre, où une suite ininterrompue d'auto, comme de gros insectes luisants, sortaient du néant, émergeaient, s'arrêtaient pour déposer leurs occupants, puis s'engouffraient dans le vide noir. Quant aux piétons, leur défilé semblait une procession d'ombres chinoises, passant un instant dans le cercle jaune d'une vieille lanterne magique. Bien en vue, sur la première marche du théâtre, se tenait un gamin aux traits rusés, qui avait l'air de vendre des journaux, mais surveillait plutôt de la façon la plus vigilante l'arrivée des voitures. Tout à coup, il s'avança précipitamment au bord du trottoir où un coupé électrique venait de stopper. Un homme en descendit lourdement et se retourna pour prendre la main à une jeune femme. Une seconde seulement, l'attention du gamin fut détournée par l'admirable créature enveloppée d'un immense manteau blanc, grande et mince, aux yeux un peu petits sous l'ombre de ses boucles, mais dans l'ensemble si radieuse que le prétendu vendeur de journaux en demeurait éberlué. « Faites bien attention, tante !» dit la jeune femme à une dame qui était encore au fond du coupé. « Les pavés sont fort glissants par ce brouillard. » Le gamin sortit de sa torpeur et se rappela soudain sa mission et s'approcha. « Journaux, monsieur !» D'abord, l'homme parut sur le point de refuser, puis quelque chose dans l'attitude du petit vendeur lui fit changer d'avis. Tandis qu'il se fouillait pour trouver de la menue monnaie, le gamin eut le temps de l'examiner. La face était d'un large ovale de couleur de farine, les lèvres minces, les joues creusées, de profonds sillons surtout entre la base du nez et la mâchoire. Les yeux étaient ternes et d'un gris trouble. Bon, « c'est bien lui !» se dit le gamin, se disposant à s'acquitter de sa commission. Cependant, la jeune femme, après avoir plaisanté son compagnon pour une telle soif de nouvelles, s'était retournée vers l'homme en habit qui venait de payer le taxi et rejoignait en ce moment le premier groupe. Le gamin profita vivement de cette diversion. Il s'approcha tout près du gentleman qui était descendu le premier et dit à voix basse, mais très distincte, « T.B.S. » L'homme blêmit et une pièce de monnaie qu'il tenait dans sa large main gantée de blanc roula sur le pavé. Le petit homme se baissa et s'en saisit. « TBS !» répéta-t-il avec insistance. « Ici !» fit l'homme. Des centaines de flics autour de ce théâtre, répondit-il rapidement le gamin. Et en ayant l'air de lui rendre sa pièce de monnaie, il lui mit dans la main un petit morceau de papier blanc. Puis il fit volte-face, fit une révérence moqueuse à la jeune dame, jeta un regard scrutateur sur l'autre homme et, d'une enjambée, alla se perdre dans la foule. Toute cette scène n'avait pas duré une minute, et quelques instants plus tard, les quatre personnages occupaient leur fauteuil tandis que l'orchestre attaquait l'ouverture de Strand Girl. « Je voudrais être un petit gamin des rues, » dit la jeune femme en jouant distraitement avec les violettes de son corsage. « Pensez, quelles aventures il peut avoir. Qu'en dites-vous, Franck ? Frank Dawson la regarda avec un tel sourire dans les yeux qu'elle rougit. « Non, dit-il, je n'aimerais pas, quant à moi. » Elle rit et haussa légèrement ses blanches épaules. « Pour un jeune journaliste, Frank, vous êtes trop sensible et trop spontané. Vous devriez étudier l'art des réponses indirectes, la subtilité, la finesse sous la direction de notre bon ami, le comte Poltavo. » Sa malice produisit l'effet désiré. Au nom de Poltavo, le jeune homme fronça du sourcil. « Doit-il venir ce soir ? » demanda-t-il d'une voix où perçait une irritation contenue. La jeune femme fit un signe affirmatif en souriant d'un air mutin. « Non, je ne sais vraiment pas quelle qualité vous voyez en cet individu, Doris. Je vous parie ce que vous voudrez que c'est une canaille. Oui, un coquin souriant et empressé, mais un coquin. Lady Dinmore, commencez-vous. » « Oh, ne faites pas appel à tante Patricia !» s'écria la jeune fille. « Elle trouve que Poltavo est l'homme le plus intéressant de Londres. N'est-ce pas, ma tante ?»« C'est vrai, » dit tranquillement la dame. « Le comte Poltavo !» Elle s'interrompit pour braquer sa lorgnette sur la loge d'en face d'où venait apparaître une toilette gris-perle. « Le comte Poltavo n'est pas seulement intéressant, il est unique !» Sa conversation m'enchante. Il connaît la valeur des nuances et les demi-sourires. Il cite Talleyrand, il a de l'esprit et, au demeurant, on sent bien qu'il conserve soigneusement par-devers lui ses opinions personnelles, comme en une rangée de flacons sur une étagère. « Oui, dit Doris pensive, j'aimerais bien connaître le contenu de ces flacons, ce qui arrivera peut-être un jour ou l'autre. » « Les étiquettes doivent porter le mot « poison », » remarqua Frank d'une voix amère. Depuis quelque temps, il avait vu l'attitude de celle qu'il aimait se modifier considérablement à son égard. Elle semblait ne plus le regarder qu'avec des yeux moqueurs, irrités, pleins d'animosité. Elle tournait en dérision sa jeunesse, sa candeur, sa simplicité. Et surtout, ses timides aveux d'amour. Si maintenant cet étranger, aux allures prétentieuses et raffinées, devenait son rival, quelle chance lui resterait-il ? Il en appela au tuteur de la jeune Doris. « Monsieur Farrington, quel est votre avis ?» Monsieur Farrington sursauta, parut s'éveiller d'un songe douloureux. Il était affreusement pâle. Au lieu de répondre au jeune homme, il se tourna vers sa pupille. « Doris, dit-il, quand avez-vous quitté Lady Constance ?» La jeune fille parut surprise de cette question. « Je n'ai pas vu aujourd'hui, répondit-elle. Elle est partie pour Bradley hier soir, n'est-ce pas ma tante ?»« Oui, fit cette dernière, mais ce n'était pas très gentil de sa part. Qu'elle t'ait mérité de partir pour la campagne en auto par ce brouillard. Oh, j'ai quelquefois l'impression que Constance Dex est un peu folle. » Bon, ce n'est pas mon avis, dit Farrington. Puis il se pencha vers la jeune Dawson. Voulez-vous prendre soin de ces dames ? Je vais être obligé de vous quitter à cause d'une affaire que j'avais complètement oubliée. En se levant, il fit un léger signe d'appel à Dawson, qui le suivit dans le couloir. « Avez-vous découvert quelque chose ?» dit Farrington, dès que la porte de la loge fut refermée. « À quel sujet ?» demanda innocemment le jeune homme. « Vraiment ?» riposta l'autre, ironiquement. « Vous paraissez vous soucier fort peu des affaires importantes dont on vous charge. »« Ah, c'est de l'affaire Tollington qu'il s'agit. » « Eh bien non, je n'ai encore rien trouvé. Je crois bien n'être pas fait pour ces sortes de recherches et d'investigations. Je crois savoir assez bien imaginer et écrire des aventures de policiers, mais en pratique, je fais un bien pauvre détective. Vous avez certes été bien aimable de me confier cela, mais... »« Ne dites donc pas de sottises, grogna M. Farrington. » Je n'ai pas agi pour vous être agréable, mais par simple intérêt. Comprenez-moi bien, Il existe quelque part par là quelqu'un qui hérite les millions de Tollington. Je suis un des exécuteurs testamentaires et j'ai naturellement le plus vif désir de découvrir l'homme qui me libérera de ma grosse responsabilité. Une grosse récompense est promise à qui fera découvrir l'héritier. Il regarda sa montre. Et puis, ajouta-t-il, je voulais aussi vous parler de Doris. Ils étaient restés dans le petit couloir qui dessert les loges, et Frank se demandait pourquoi Farrington abordait un tel sujet à ce moment. Mais il s'inclina. Il était très fier d'avoir été chargé de retrouver l'héritier inconnu des millions de Tollington, et s'il considérait cette tâche comme à peu près irréalisable, il n'en était que plus heureux puisque cela lui permettait de rester pour un temps indéfini en relation avec le tuteur de Doris. « Vous connaissez bons sentiments, » poursuivait ce dernier en regardant de nouveau sa montre. « Mais je désire qu'elle se marie avec vous. Elle est charmante et je n'ai d'affection profonde pour personne d'autre au monde. » Sa voix tremblait, nul n'aurait pu douter de sa sincérité. « Oh, excusez-moi, » conclut-il, « je deviens nerveux. Ce double meurtre l'autre nuit, devant ma porte, m'a ébranlé. Allons, tâchez de gagner son cœur et sa main. » Il tendit à Franck une main glacée, murmura quelque chose comme « je vais revenir », puis descendit, traversa le vestibule et sortit dans le brouillard. Un coup de sifflet appela une voiture. « Au Savoy !» dit Farrington. Au bout d'une minute, il passa la tête à la portière. « Je vais descendre ici, » dit-il. Il paya, et sans écouter les protestations de l'honnête chauffeur qui ne voulait pas le laisser s'aventurer seul dans un tel brouillard, il releva le col de son pardessus, passa dans une rue adjacente, où il héla un autre taxi.